Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 28 avril 2025. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner, quel drôle de nom. Pourquoi pas Libellule ou Papillon? Vous n'avez pas bien compris. Je recommence. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner, quel drôle de nom. Pourquoi pas Libellule ou Papillon? Vous n'avez toujours pas compris? Je recommence. Un pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner, quel drôle de nom. Pourquoi pas Libellule ou Papillon? C'est par ce poème de Jacques Prévert que je vous invite à travers la bande-annonce à écouter cette chronique donc de ce lundi 28 avril dans laquelle nous allons parler de la mort du pape, mais bien évidemment pas en reprenant les commentaires, la papolatrie à laquelle on a assisté depuis une dizaine de jours sur les différents médias, mais en abordant un peu plus sur le fond les problèmes. Et nous allons commencer par le communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre-pensée qui revient sur cette question de mise en berne des drapeaux sur les édifices publics et la présence à Rome d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. C'est une violation de la loi de séparation de 1905. Au terme de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, la Constitution donc de la Ve République, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. À ceux de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En dépit de ces dispositions, le Premier ministre François Bayrou vient d'annoncer la mise en berne des drapeaux sur les édifices publics à l'occasion des obsèques du pape, chef du culte romain, c'était le samedi 26 avril 2025. Cette décision constitue une violation caractérisée de la laïcité en faveur de la religion catholique de la part du chef du gouvernement, qui en est un ardent fidèle, au point d'avoir en permanence étouffé des pratiques pénalement répréhensibles ayant eu lieu dans un établissement scolaire sous contrat du diocèse de Pau. Au surplus, bien que le Vatican ne soit qu'un pseudo-État, créé par le fasciste Mussolini en 1929, siégeant sur un strapontin d'observateurs, le Vatican, à l'Organisation des Nations Unies, le président de la République, flanqué des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, piétinera également la loi de séparation en se rendant aux obsèques de Jorge Bergoglio. Rappelons que le dit Saint-Siège est quasiment le seul pays au monde où il n'y a jamais eu d'élection démocratique, où il est interdit de faire grève et d'être syndiqué, qui n'a jamais ratifié la moindre déclaration sociale de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui n'a jamais ratifié non plus la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui, comme État, avec tous les guillemets qu'il convient de mettre, comme État d'Israël et l'Arabie saoudite, est une théocratie où la nationalité est obtenue exclusivement par la religion officielle. Contrairement à ce que M. Emmanuel Macron a soutenu dans son discours des Mureaux du 20 octobre 2020, annonçant la loi liberticide dite « séparatisme » du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, le séparatisme ne se trouve pas du côté des musulmans, mais bien des agents de l'Église romaine infiltrés au cœur de la République. La Fédération nationale de la libre-pensée dénonce avec force ces dérives cléricales et appelle les citoyens à participer massivement au meeting national, laïque et international du 6 décembre 2025 au gymnase Japy à Paris, convoqué pour célébrer le 120e anniversaire et défendre la loi du 9 décembre 1905. Voici donc le communiqué de la Fédération nationale de la libre-pensée suite aux décisions donc du Premier ministre de mettre les drapeaux en berne sur les édifices publics le samedi 24 avril, donc au jour des obsèques de Jorge Bergoglio. Le Vatican. Mais qu'est-ce exactement que le Vatican? Eh bien, écoutez, je vous propose un texte qui a été rédigé par Jean-Marc Schiappa, un texte de 3-4 pages qui revient de manière très détaillée sur ce qu'est le Vatican. À chaque visite papale, on nous ressort les mêmes inepties, par ignorance ou par calcul, c'est selon. Mais bon gré mal gré, on dit que voulez-vous ? Le pape est un chef d'État. Parfois, des laïcs bien intentionnés se récriant contre cette affirmation osée affirment « c'est un État totalitaire ». Eh bien non, le Vatican n'est pas un État, ni dictatorial, ni même théocratique. Il n'est pas un État du tout. Origine. Grâce à Pépin le Bref, cher au président Sarkozy, pour des raisons qui sont peut-être de l'ordre de l'identification psychanalytique, les États pontificaux sont créés en 756. Sous l'autorité temporelle du pape, ils vont évoluer tout au long du Moyen Âge comme n'importe quelle structure féodale, ni plus ni moins. Extension, conquête, querelle, conflit, scission. Les choses changent avec la Révolution française et la condamnation par le pape de celle-ci. La population d'Avignon, par exemple, alors sous domination papale, décide de demander son rattachement à la France, ce qui fut fait en 1791. C'est un des premiers exemples du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les États pontificaux forment à cette époque, et ils resteront tout au long du XIXe siècle, une partie essentielle du centre de l'Italie, autour de Rome, de l'Adriatique à la Tyrrhénienne, empêchant l'unité de la nation italienne. Vous voyez bien au niveau de la carte ce que ça donne, ça coupe l'Italie complètement. Donc voilà cette situation donc, au XIXe siècle. Voilà pourquoi tous les unitaires italiens, de Buonarroti à Garibaldi, combattront l'existence de ces États pontificaux, à la fois spirituels et temporels. C'est l'intervention des troupes de Napoléon III, dit le Petit, décidément, qui permet le maintien de ces États en 1867, la chute du Second Empire en 1870. Voit l'entrée des troupes italiennes à Rome par la porte Pia, saluée au Congrès international de la libre-pensée de 1904, l'unité de l'Italie est réalisée et Rome devient logiquement sa capitale. Il n'y a plus dès lors de pouvoir temporel du pape. Celui-ci, Pie IX, conteste ses décisions et se qualifie de « prisonnier du Vatican », refusant les tentatives de tractation de l'État italien. Ses successeurs agiront de même. Nous remarquerons que cela n'a pas empêché l'Église catholique ni d'exister, ni de fonctionner. Condamnation du modernisme, de la loi de séparation de 1905, etc., etc. L'Église catholique n'a pas besoin d'un État pour fonctionner. L'affirmation de la grande encyclopédie des pays publiée par le Figaro Magazine, « L'autonomie de l'État du Vatican est nécessaire pour assurer l'indépendance de la charge du pape » est une contre-vérité. L'histoire l'a prouvé. Les accords du Latran. Après l'échec de la vague révolutionnaire de 1917-1922, sur la base de l'écrasement du mouvement ouvrier, Mussolini prend le pouvoir en 1922, la même année que le pape Pie XI. Le pouvoir fasciste n'est cependant pas stable. L'assassinat du dirigeant socialiste Matteotti en 1924 et la proclamation des lois dites ultra-fascistes sont plus un signe de faiblesse que de force. Mussolini a besoin d'une forme de reconnaissance internationale, d'où ses négociations avec le pape qui, lui-même, a besoin de pérenniser et de clarifier sa situation. Les accords du Latran sont signés le 11 février 1929 par Benito Mussolini en personne. Le quartier de 44 hectares, l'équivalent de la distance entre deux stations de métro, pour donner un ordre de grandeur, du Vatican, est déclaré indépendant le 7 juin 1929, acte bilatéral entre l'Église catholique et le régime fasciste. Qui est le père du Vatican ? Mussolini. Si l'éradiction du fascisme a un sens, elle doit aller jusqu'à la dénonciation internationale de ce traité. Tout gouvernement, tout ministre qui oublie cela se rend complice des crimes fascistes. Les accords du Latran donnent un statut spécial à l'Église catholique romaine en Italie. Ils comprennent également un traité de reconnaissance de l'indépendance et de la souveraineté du Vatican. Un concordat définissant les relations entre le gouvernement italien et l'Église, un volet financier, dédommageant le Vatican de la perte de ses États en 1870. C'est-à-dire que l'Italie a payé un dédommagement au pape pour avoir occupé une partie de l'Italie. Imagine-t-on un propriétaire dédommageant un squatteur ? Un volet dédommageant un voleur ? Nous pouvons affirmer que le Vatican n'est pas historiquement un État, mais une création du fascisme. Nous noterons également que, comme le concordat nazi de 1933, cette création fasciste est toujours en vigueur. Certes, en 1984, un concordat entre le Vatican et l'Italie a modifié certaines dispositions du traité. Libre penseur de France, il ne nous appartient ni de près ni de loin d'établir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas dans d'autres pays. Chacun doit balayer devant sa porte, mais nous savons tous que l'existence d'un concordat, de relations établies de puissance à puissance entre l'Église catholique et un État, est la négation de la souveraineté de l'État et que le bon sens, comme la politique, recommande de rejeter tout concordat. Finances. Un mot a été dit des finances du Vatican. Soyons plus précis. La grande encyclopédie des pays écrit « Sa richesse lui vient en grande partie des fonds remis en dédommagement de l'annexion du reste des États pontificaux par l'État italien lors de la dissolution de l'ancien État pontifical. Ce sont les intérêts de cet argent, placés dans diverses entreprises, qui constituent une grande partie des fonds de l'État. » Passons sur le vocabulaire. Le retour à l'Italie du Latium devient annexion. Quel est le fond du problème ? La restitution des sommes versées par Mussolini et payées par les citoyens italiens, comme de leurs intérêts, est une revendication de base. Les Italiens devraient-ils payer l'occupation de leur territoire ? Seuls les traités de paix les plus sauvages, celui de Versailles en 1871, par exemple, le prévoient. Il faut donc annuler le traité de Latran et en conséquence restituer au peuple italien les sommes volées par Mussolini et la papauté. Le catholique J. Mercier écrit qu'il s'agit de, au cours de 1929, 830 millions de lire. Institution. Le pape dispose de tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Le Vatican est une dictature explicite. Les institutions du Vatican sont réglées par une constitution, entre guillemets, dont la première mouture a été rédigée par Pie XI au moment des accords de Latran. Actuellement, le Vatican est régi par la loi fondamentale du 22 février 2001. Article 18, pour citer des exemples. Les conflits relatifs aux rapports de travail entre les salariés de l'État et l'administration relèvent de la compétence de l'Office du travail du siège apostolique. Selon son propre statut, les recours contre les mesures disciplinaires prises contre les salariés de l'État peuvent être portés devant la Cour d'appel selon ses propres règles. Article 19. La faculté d'accorder les amnisties, les remises de peine, les pardons et les grâces est réservée au souverain pontife. Faut-il commenter ? Oui, avec Montesquieu écrivant, comme on le sait, sur la séparation des pouvoirs. Citation. Chez les Turcs, où les trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. Le Vatican est un affreux despotisme. La grande encyclopédie des pays parle de monarchie absolue. Dans le cadre de la religion catholique, c'est une évidence, mais c'est le problème des seuls catholiques. Les libres penseurs ne donneront certes pas d'idées ou de suggestions pour réformer l'Église. Mais quelles sont les autres monarchies absolues ? Peut-être dans quelques îles du Pacifique ? La monarchie absolue a été abolie au Népal en 2006 suite à une série de manifestations et de grèves. Il existe également la monarchie absolue aux Swaziland, mais une grève générale en juillet 2007 s'y est violemment opposée. Il faut dire que la population du Swaziland est supérieure aux millions d'habitants, ce qui n'a rien de comparable aux centaines de logés du Vatican. Même de ce point de vue, le Vatican est une survivance moyenâgeuse. Citoyenneté. La citoyenneté vaticane n'est pas l'expression d'une appartenance nationale. D'ailleurs, il n'y a aucune élection générale. La majorité des habitants du Vatican ne possède pas cette citoyenneté. Elle est liée uniquement à l'exercice de fonctions au sein du Vatican ou du Saint-Siège. Dès que ces fonctions cessent, la citoyenneté cesse. Le Vatican a inventé la citoyenneté en CDD. Notons une disposition prouvant à elle seule la misogynie congénitale de l'Église. La citoyenneté est attribuée également aux conjoints et à la famille des fonctionnaires du Vatican. Les garçons en perdent les bénéfices à l'âge de 25 ans et les filles au moment de leur mariage. Les femmes n'existent que mariées. Le Vatican est le seul État sans citoyens. Parce qu'un État, c'est la forme organisée d'une nation. C'est un territoire, une population, une citoyenneté, le produit d'une histoire libre, une forme d'organisation interne qui peut être modifiée par les citoyens. Le Vatican n'est pas une nation et encore moins un État. Voilà. Alors, il y a d'autres articles que je vais vous lire de cette constitution, entre guillemets, du Vatican. Par exemple, l'article 1er, le souverain pontife, souverain de l'État et de la Cité du Vatican, a la plénitude des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. L'affirmation ne peut plus claire du mélange des trois pouvoirs. Article 2, la représentation de l'État dans ses rapports avec les États étrangers et avec les autres sujets de droit international pour les relations diplomatiques et pour la conclusion des traités est réservée au souverain pontife qu'il exerce par l'intermédiaire de la secrétaire d'État. Article 3, le pouvoir législatif, à l'exception des cas que le souverain pontife entend réserver à lui-même ou à d'autres instances, est exercé par une commission composée d'un cardinal, président et d'autres cardinaux, tous nommés par le souverain pontife pour 5 ans. Article 4. La commission exerce son pouvoir dans les limites de la loi, sur les sources du droit et selon les dispositions pertinentes de son propre règlement. Les projets de loi sont préalablement soumis par l'intermédiaire de la secrétaire d'État à l'attention du souverain pontife. Article 12. Le budget prévisionnel et les comptes de l'État, après approbation de la commission, sont soumis au souverain pontife par l'intermédiaire de la secrétaire d'État. Article 15. Le pouvoir judiciaire est exercé au nom du souverain pontife par les organes constitués au sein de l'organisation judiciaire de l'État. Article 16. En toute cause civile ou pénale, en tout état de celle-ci, le souverain pontife peut en déférer l'instruction et la décision à une instance particulière et lui donner la faculté de se prononcer en équité et sans recours ultérieur possible. Excepté ce que dispose l'article suivant, quiconque considère avoir été lésé dans son droit ou intérêt légitime par un acte administratif peut intenter un recours hiérarchique ou s'adresser à l'autorité judiciaire compétente. Et deuxième partie de l'article 17, le recours hiérarchique éteint dans la même matière l'action judiciaire, sauf dérogation autorisée au cas par cas par le souverain pontife. Voilà. Donc, vous voyez que c'est sans commentaire possible, sinon celui de Montesquieu. Chez les Turcs, où les trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. Donc, le Vatican est un affreux despotisme. Voilà. Je pense que c'était intéressant de rappeler un petit peu ce qu'est le Vatican. Donc, ce n'est pas une nation et encore moins un État. Je crois que l'explication que je viens de vous lire, qui a été donc rédigée par Jean-Marc Schiappa, est extrêmement claire. Alors, j'ai un autre article à vous lire, mais bien, je n'aurai pas le temps de vous le lire en totalité, il est trop long. Mais il peut servir en gros d'introduction au choix musical que je vous propose avec. Quand même une petite pointe de malice, hein, je vous ai retenu la chanson Le Tango de Daniel Lou, hein, qui est une chanson qui a été écrite et chantée par un libre penseur et qui revient sur cette affaire que les plus jeunes de nos auditeurs ne connaissent certainement pas, qui avait donc défrayé la chronique par ce cardinal retrouvé dans les bras d'une prostituée qui avait eu la bonne idée de lui décéder dans les bras. Imaginez ce qui s'est passé. Et vous verrez, la chanson est extrêmement humoristique. Et au moment où les cardinaux vont devoir se réunir pour désigner un nouveau pape, eh ben, c'est pas mal de fredonner cette chanson, me semble-t-il. Alors, donc là, c'est un article de Christian Echen, « Du rire aux crises, schisme et impossible réforme de l'Église catholique » en passant par Jean-Daniel Lou. Voilà. Et il dit, Christian Echen, je vais essayer dans cet article de synthétiser 3 numéros récents de Communio. Communio, c'est la revue catholique internationale réservée aux éminences et aux prélats. Le rire, Jean-Daniel Lou et l'Église à neuf. Et donc, dans le numéro sur le rire, ce thème est d'abord traité par le rappel incontournable du roman « Au nom de la rose » d'Umberto Eco, qui décrit une scène où le vieux moine intégriste Jorge de Burgos sermonne les moines qui s'amusent en professant qu'il est interdit de rire, car si on rit de tout, alors on rira de Dieu. On connaît le thème de ce puissant livre et du magnifique film qui en fut tiré. C'est une enquête policière pour élucider plusieurs crimes autour de la recherche du deuxième livre de la poétique d'Aristote qui traite de la comédie. Et donc le numéro de Communio traite de ce sujet. Alors, Daniel Lou. Daniel Lou allait combattre ce qui restait du modernisme dans l'Église et particulièrement l'œuvre d'Alfred Loisy qui allait trop loin dans l'exégèse catholique. Il fut excommunié en 1908 et rejoignit alors Alfred Loisy, le combat de la libre pensée, il retrouvera ainsi l'abbé Joseph Turmel, qui emprunta le même chemin, étant aussi excommunié en novembre 1930 et qui devint un libre penseur actif. Le futur cardinal Danielou s'inscrivait aussi dans l'action d'Emmanuel Mounier, et ça nous ramène à l'actualité, puisque Emmanuel Mounier est, de la parole même d'Emmanuel Macron, le maître à penser de ce dernier. Et donc Emmanuel Mounier, qui irrigua l'école des cadres d'urriage du régime de Vichy. Dans l'affrontement chrétien, celui-ci écrivait « Le christianisme est-il un pseudonyme de la coalition des faibles et des peureux ? Une renaissance virile apparaît sinon comme la substance, au moins comme la préface nécessaire d'un renouveau spirituel. » On comprend alors que pour cette renaissance virile, il apporta tout son soutien et sa participation au chantier de jeunesse du, encore alors, maréchal Pétain. En bon jésuite, Danielou avait une vision internationale des problèmes et il œuvrait à faire comprendre comment le christianisme s'était d'abord exprimé dans la culture gréco-romaine et s'était aussi incarné dans d'autres grandes cultures mondiales en Inde, en Chine, en Afrique. Tout cela loin des affres du Moyen-Orient d'où il était pourtant censé venir. Sa relation dans l'œuvre qu'il accomplissait pouvait se résumer à cette inscription, citée par Comigno, gravée en latin devant l'église Saint-Charles aux Quatre Fontaines à Rome, « Faire du neuf, conserver l'ancien, les deux étant bien compatibles ensemble ». C'est pourquoi il travaillait sur l'opposition entre le sens littéral et le sens spirituel, en s'appuyant sur saint Thomas d'Aquin, qui indiquait que le sens littéral concernait les mots et le sens spirituel était du domaine du relationnel et qui s'exprimait par la réalité des situations où cela était professé. On retrouve cela dans la théorie de l'acolutia, succession ordonnée des événements, de Grégoire de Nice. C'était l'explication traditionnelle de la thèse et de l'hypothèse qui fut souvent résumée à cette formule « Les Juifs ont tué le Christ et Monseigneur Dupanloup dîne chez M. de Rothschild ». Voilà. Donc, j'en reste là sur ce texte que dans une autre chronique, je vous lirai peut-être en entier, hein, puisque je pense que par sa longueur, il doit occuper une chronique entière. C'est assez intéressant. Donc, ce texte a tout un paragraphe sur un numéro de Comigno qui évoque donc Jean Danielou, dont les performances viriles, pour reprendre l'expression qui a été citée, se sont exprimées un certain jour que dont notre ami donc Jean Fary a fait une chanson, un autre ami qui est décédé, libre penseur, le tango de Danielou, qu'on écoute religieusement.
Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Quand la mort t'a surpris, tu étais dans les bras de Mimi. C'est une sacrée vacherie de ton Seigneur qui fait bien rire les libres penseurs. Danielou, vieux matou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Toi qui fus un modèle jésuitique, le plus strict des moralisateurs, tu clamais sur un ton fanatique que Jésus seul emplissait ton cœur. Tu prêchais le célibat, l'abstinence, les mérites de la continence. Danielou, vieux hibou, tu devais bien rigoler par en dessous. Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Quand la mort t'a surpris, tu étais dans les bras de Mimi. C'est une sacrée vacherie de ton Seigneur qui fait bien rire les libres penseurs. Danielou, vieux matou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Je n'aimais pas ta face de corbeau, j'abhorrais ton rire sarcastique. Je n'aimais pas tes discours de bigot, dispensant le miel évangélique. que tu baises, vois-tu, on s'embrasse. C'est normal, même pour une éminence. Ce qui nous donne du dégoût, c'est ton hypocrisie, vieux Grigou. Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Quand la mort t'a surpris, tu étais dans les bras de Mimi. C'est une sacrée vacherie de ton Seigneur qui fait bien rire les libres penseurs. Danielou, vieux matou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Quand on parle à Rome d'une fille pulpeuse, on dit c'est une bouchée de cardinal. La Mimi devait être courageuse pour s'envoyer l'affreux clérical. Tu devais bien payer aux jésuites, on a trouvé sur toi des gros billets. Je ne sais ce que te fit l'Aphrodite, mais ton cœur n'y a pas résisté. Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Quand la mort t'a surpris, tu étais dans les bras de Mimi. C'est une sacrée vacherie de ton Seigneur qui fait bien rire les libres penseurs. Danielou, vieux matou, souviens-toi du dernier rendez-vous.
Et sur ces bonnes paroles, eh bien écoutez, je vous propose de nous retrouver pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller, toujours sur Radio du Grand Périgord. Ce sera lundi prochain à 11h30. Bonne semaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.
Qui la couvre, elle tient.